Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce jeudi soir, 10 décembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'ouverture officielle du chemin de fer Khaf-Herat, qui relie Khaf iranien à Herat afghan. Des dizaines de Syriens golanais ont été blessés par les militaires israéliens et le président ghanéen a été reconduit pour un second mandat de 4 ans après avoir remporté l'élection présidentielle du lundi. C'était les titres. En voici le journal. Un chemin de fer reliant Khaf, situé dans le sud-est de la province de Khorasan-Razavi, au nord-est de l'Iran, à Herat, situé à l'ouest de l'Afghanistan, vient d'être inauguré ce jeudi matin 10 décembre par visioconférence en présence du président iranien Hassan Rouhani et d'un nombre d'autorités politiques et économiques iraniennes et afghanes. Ce chemin de fer contribue à la réalisation du projet du corridor ferroviaire international Est-Ouest qui donnera suite au programme du développement de la région. Le chemin de fer Khaf-Herat est l'un des projets nationaux et internationaux les plus importants qui augmente non seulement les recettes en devises et un transport bon marché et économique des marchandises entre l'Iran et l'Afghanistan, mais encore contribue au renforcement de la stabilité et de la sécurité. Ce projet a également le potentiel de susciter une prospérité et de créer des occasions d'emploi sans précédent pour toute la région, a déclaré le gouverneur de Khaf au micro de l'IRNA en marge de la cérémonie d'ouverture. Le président iranien Hassan Rouhani, qui a rencontré ce mercredi 9 décembre à Téhéran le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov, a évoqué la position claire et transparente de l'Iran sur le conflit du Haut-Karabakh et a insisté sur l'importance pour l'Iran de l'intégrité territoriale de la République d'Azerbaïdjan. Lors de cette rencontre, le président iranien a fait état de la possibilité pour Téhéran de jouer un rôle d'intermédiaire efficace pour consolider le cessez-le-feu entre ses deux voisins azerbaïdjanais et arméniens. Il a rappelé ensuite l'opportunité pour les pays de la région de coopérer davantage dans tous les domaines après le départ du président américain Donald Trump, faisant ainsi allusion au rôle destructeur de Washington au niveau régional. Nous sommes prêts à participer à la reconstruction des régions libérées de la République d'Azerbaïdjan, a souligné le président iranien qui a évoqué ensuite les accords précédemment conclus entre Téhéran et Bakou, notamment le projet ferroviaire Rasht-Astara, la construction du barrage hydroélectrique de Roda Farin sur le fleuve frontalier d'Arax, mais aussi dans d'autres domaines industriels, pharmaceutiques et scientifiques, sociaux et culturels. De son côté, le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a remercié la position de principe de Téhéran quant au respect total de l'intégrité territoriale de son pays. Jeyhun Bayramov a ajouté qu'après la libération des zones occupées du territoire azerbaïdjanais, dont les 132 kilomètres de la frontière azerbaïdjanaise avec la République islamique d'Iran, le terrain est devenu favorable au développement accru des relations économiques et commerciales entre les deux pays voisins. Le ministère syrien des Affaires étrangères a publié le mercredi 9 décembre un communiqué pour condamner les actions colonialistes des dirigeants israéliens en référence à la résolution 497 adoptée en 1981 par le Conseil de sécurité qui condamne l'annexion par Israël du plateau syrien du Golan. Des actions telles que la confiscation de terres, de biens et le vol des ressources naturelles du pays sont considérées comme des crimes de guerre et des violations flagrantes du droit international et de la 4e Convention de Genève de 1949 ainsi que de la résolution 497 du Conseil de sécurité. Le 7 décembre, les forces d'occupation israéliennes ont fermé un certain nombre d'entrées principales des villages des hauteurs du Golan occupés et ont installé de grandes turbines à Majd al-Shams, Soïta, Beka, Masada. Ils ont ainsi empêché les habitants d'accéder à leurs terres agricoles. Le mercredi 9 décembre, l'agence de presse officielle Sana a rapporté que plus de 20 Golanais avaient été blessés lors de la tentative des forces d'occupation israéliennes de disperser leur rassemblement entre les villages occupés de Majd al-Shams et Masada en protestation contre le plan de l'occupation d'installer des turbines éoliennes sur leurs terres. Selon une étude de l'université américaine Brown, le nombre de civils tués par les frappes aériennes des États-Unis et de leurs alliés en Afghanistan a augmenté d'environ 330% de 2016 à 2019. L'armée américaine en Afghanistan a rejeté cette étude. L'Institut Watson de l'Université Brown des États-Unis a publié le 7 décembre une étude révélant que le nombre de victimes civiles causées par les frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis a fortement augmenté entre 2016 et 2019 en Afghanistan. En 2019, 700 civils ont été tués en Afghanistan par des frappes aériennes, plus que toute autre année depuis les premiers jours de la guerre en 2002, toujours d'après la même étude. Et d'ajouter, il y a plus de bombes larguées depuis les airs en 2018 et 2019 qu'au plus fort de la présence américaine en Afghanistan en 2011. Le rapport met ensuite en avant le nombre moyen de civils tués chaque année de 2007 à 2019 en Afghanistan par les États-Unis, leurs alliés et le gouvernement afghan. La directrice de recherche de cette étude explique que cette forte augmentation du nombre de civils tués chaque année est en grande partie due à la levée en 2017 par l'administration Trump des restrictions imposées jusque-là aux forces américaines en Afghanistan pour mener des frappes aériennes contre les talibans. En conséquence, celles-ci ont fortement augmenté dès 2017 jusqu'à l'accord signé entre Washington et les talibans en février 2020. Quittons la région et allons directement en France, où la coordination Stop Loi Sécurité Globale appelle à continuer la mobilisation. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 12 décembre partout en France. La coordination d'opposants à la loi a néanmoins estimé dans un communiqué qu'après la manifestation parisienne du 5 décembre et du fait de la stratégie de la terre brûlée mise en place par la préfecture de police, la coordination Stop Loi Sécurité Globale considère que les conditions de sécurité des manifestants et manifestantes ne sont pas assurées et n'organisera pas de mobilisation ce samedi 12 décembre à Paris. Une annonce qui fait suite aux nombreuses violences qui ont émaillé le cortège parisien lors de la dernière manifestation. Dans une lettre publiée le 3 décembre, 5 rapporteurs indépendants de l'ONU avaient exhorté la France à entreprendre une évaluation complète de la compatibilité de l'ensemble de la proposition de loi sécurité globale avec le droit international. Le 9 décembre, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, a appelé les autorités françaises à retirer l'article 24 de la proposition de loi Sécurité globale en France, dénoncée comme liberticide par certaines organisations. La loi mérite d'être débattue par le peuple français, a déclaré Michelle Bachelet lors d'une conférence de presse à Genève. Mais c'est l'article 24 qui nous préoccupe particulièrement et c'est pourquoi nous disons qu'il devrait être révisé et j'imagine même retiré. Adopté en novembre, en première lecture à l'Assemblée nationale, la proposition de loi et son article 24 qui interdit la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité physique ou psychique est désormais soumise à l'examen du Sénat alors que la majorité présidentielle a annoncé que cet article serait entièrement réécrit. Et de l'actualité africaine, le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a été reconduit pour un second mandat de 4 ans après avoir remporté l'élection présidentielle de lundi, a déclaré la commission électorale CE mercredi. Jean Mensa, président de la CE, a déclaré qu'Akufo-Addo a obtenu 6 730 413 voix, soit 51,59% du total des suffrages exprimés dans les 16 régions du pays. M. Akufo-Addo prêtera serment le 7 janvier pour son second et dernier mandat de 4 ans en tant que président. Et au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir, a remporté les premières élections régionales selon les résultats provisoires publiés mercredi par les commissions régionales de supervision. 14 partis politiques étaient en lice pour les régionales prévues dans la Constitution camerounaise depuis 1996, mais qui n'ont pourtant jamais été organisées. Pour le RDPC, il s'agit d'une victoire sans surprise, selon des observateurs locaux, car les 700 conseillers régionaux sont élus par les quelque 10 000 conseillers municipaux, dont la majorité est membre du parti au pouvoir. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Une délégation sécuritaire égyptienne à Gaza pour transmettre l'appel paniqué d'Israël à la résistance. Se trouvant dans une très mauvaise posture face à l'axe puissant de la résistance, le régime israélien est allé jusqu'à quémander auprès des groupes de la résistance palestinienne de ne pas assister à la riposte que l'Iran envisage à l'assassinat du grand savant nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh. Citant des sources égyptiennes, le quotidien L'Arabie Al-Jadid indique que le régime sioniste aurait transmis par le truchement de l'Égypte un message au mouvement palestinien, le Hamas et le djihad islamique, les priant d'éviter toute riposte par procuration à l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh. Les efforts désespérés du régime israélien interviennent à un moment où l'axe de la résistance se trouve dans une position de force inédite, un axe dont deux maillons forts, à savoir l'Iran et la Syrie, viennent de peaufiner à l'occasion de la visite à Téhéran du nouveau ministre syrien des Affaires étrangères. À Téhéran, le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères a rencontré lundi et mardi les plus hautes autorités iraniennes. Ces entretiens, qualifiés d'une importance primordiale, se sont articulés autour des points importants tels que l'impératif de poursuivre la lutte contre le terrorisme, de libérer le Golan occupé, de mettre un terme à la présence pernicieuse US dans la région et la nécessité d'œuvrer à amplifier la synergie au sein de l'axe de la résistance. À cela s'ajoute cette importante déclaration de l'ambassadeur de la Russie à Tel Aviv, lequel a souligné que le problème au Moyen-Orient, c'est Israël, non pas l'Iran. Il a aussi révélé que son pays a l'intention de vendre des armements à l'Iran. Ce sont autant d'éléments qui expliquent pourquoi le régime israélien quémande dorénavant les groupes de la résistance palestinienne de ne pas apporter leur contribution à la riposte iranienne. Des groupes qui sont fortement attachés à la cause palestinienne et au combat anti-occupation qui sont également ceux de Téhéran. Selon la même source, Israël aurait déclaré aux Égyptiens qu'il disposait des informations selon lesquelles Téhéran préférait une riposte par procuration aux crimes commis le 27 novembre sur son territoire, ce qui reste évidemment une pure spéculation. Le Caire n'a pas communiqué la réponse du Hamas ni celle du djihad islamique, mais vu la panique israélienne, la réponse serait non, indique le quotidien Al-Arabi Al-Jadid. Selon le journal, la partie égyptienne prévoit que les politiques du régime israélien vis-à-vis de la bande de Gaza provoquent une nouvelle vague de tensions pour cette région. La délégation sécuritaire égyptienne était arrivée le mercredi 9 décembre dans la bande de Gaza pour rencontrer des responsables du Hamas. Les deux parties ont discuté des relations bilatérales, de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, de la réalisation des accords déjà signés pour maintenir la paix en Palestine et d'un possible échange de prisonniers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. En visite à Téhéran, le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Miqdad a rencontré lundi et mardi les plus hautes autorités iraniennes, dont le président de la République islamique, Hassan Rouhani, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, le président du Parlement iranien Mohammad Barghel Ghalibaf, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, l'amiral Ali Shamkhani, et le ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. On va en fait parler de la portée de l'importance de cette visite à Téhéran du nouveau ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad. J'ai avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnon Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, venait juste de découvrir le visage et l'image. Il s'agit d'une analyste franco-syrienne qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à Maître Develet et bonjour à tous les téléspectateurs et à l'équipe de Presse TV et à vous-même, en fait, pour ces débats intéressants.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Madame Midani, première question. Quelle est en fait la portée, l'importance de cette visite effectuée par le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères, M. Faisal Miqdad, à Téhéran, s'il vous plaît?
Alors, cette visite, elle vient effectivement, comme vous le soulignez, c'est la première visite de Faisal Miqdad depuis qu'il est ministre des Affaires étrangères, après le décès du ministre Walid Al-Muallem. Donc ça, c'est aussi une présentation pratiquement de ses nouvelles fonctions aussi aux amis iraniens. Mais en même temps aussi, c'est une visite de condoléances concernant le grand scientifique qui a été vilement assassiné par les terroristes soutenus par les Israéliens et les Américains, le scientifique, le grand scientifique Hassan Zadeh, Hassan Fakhrizadeh.
Mohsen Fakhrizadeh, madame, Mohsen Fakhrizadeh.
Mohsen, pardon, Mohsen Fakhrizadeh. Et donc, c'était les deux objectifs étaient là. Surtout aussi par ces temps de... Alors, en fait, cet assassinat montre aussi la violence et le regain, je dirais, de violence au niveau de la politique des Israéliens et de l'Arabie saoudite et tous les gens qui sont en train de normaliser, mais même de faire une coordination sur tous les plans avec Israël sous la pression de Trump avant que Trump ne quitte le pouvoir. Alors, cette visite est une visite assez cruciale qui a pour objectif aussi de resserrer les liens au sein de l'axe de la résistance, de pas seulement resserrer les liens, mais aussi de s'assurer que cette alliance est une alliance stratégique qui touche tous les axes et tous les plans, aussi bien le plan économique, le plan scientifique, le plan militaire, et de la lutte contre le terrorisme, etc. Donc ces différents dossiers, ils ont été discutés avec les différents responsables que Monsieur Faisal Maqdad a rencontré. Donc il a rencontré, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, il a rencontré le président Rouhani, il a rencontré les responsables de la défense, il a rencontré le ministre Zarif. Et donc ça c'est aussi un point très très important et où ils ont discuté de tous les aspects de des liens entre la Syrie, des liens stratégiques, je dirais, entre la Syrie et l'Iran.
Voilà. Maître de Volley, votre lecture de cette visite à Téhéran du ministre syrien des Affaires étrangères, s'il vous plaît.
Écoutez, comme l'a souligné Dr Midani, effectivement, c'est une rencontre inaugurale, mais quelque part en même temps qui s'inscrit dans le prolongement d'une coopération de longue date. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Mekdad, devait certainement être au courant de tous les dossiers en cours, ça va sans dire. Mais il était important pour les responsables de la République islamique d'Iran, et ce, à tous les niveaux, d'organiser une visite où, effectivement, il soit introduit de manière officielle à tous les niveaux et à tous les interlocuteurs avec lesquels il sera amené à travailler de manière étroite, certainement plus étroite que jamais en ce qui concerne les relations bilatérales entre les deux pays, dans le sens où, effectivement, avec l'intensification de la guerre contre le terrorisme, avec une cristallisation des lignes de front, avec une entité sioniste de plus en plus fébrile, de plus en plus adossée à ces contradictions, avec une administration américaine qui, pour l'instant, peine à émerger. On ne sait pas trop ce qui va sortir du chapeau à Washington, mais toujours est-il que l'establishment américain, quel que soit son représentant, aura l'un comme l'autre un impact, continuera malheureusement à avoir l'impact négatif qu'il a dans la région. Et donc, dans ce contexte, effectivement, il est important de resserrer les liens, de célébrer cette relation bilatérale stratégique et de remettre, si je puis dire, les choses plus que jamais à l'ordre du jour, rester vigilant, bien sûr, coordonner les dossiers et appliquer une synergie de tous les instants, parce que c'est à travers cette synergie, somme toute, que l'avenir se trouve pour l'axe de la résistance de manière générale et pour la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne de manière particulière.
Madame Mehmidani, est-ce que votre avis également, le point important sur lequel insiste désormais en fait l'axe de la résistance, entre autres en fait l'Iran et la Syrie, qui sont deux maillons forts de cet axe, l'important c'est en fait de renforcer de plus en plus cette synergie à laquelle vient de faire allusion Maître de Volée?
Absolument, je crois que la Syrie et l'Iran sont les deux piliers de cet accord, en fait, de cet axe de la résistance autour duquel se regroupent les autres pays aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Syrie a été particulièrement visée depuis 10 ans pour être détruite complètement. On a voulu détruire aussi ses défenses, toutes les défenses anti-israéliennes, les défenses aériennes, etc. On a injecté des centaines de milliers de terroristes qui ont détruit l'infrastructure, qui ont détruit l'économie, qui ont détruit aussi beaucoup la structure sociale, je dirais, et puis à coup d'assassinats, de têtes coupées, de personnes éventrées, etc. Donc, au-delà de ça aussi, des incendies, des cultures. Donc après, étant donné que la Syrie a résisté pendant ces années, et elle a résisté et elle reconstruit, la phase qui est venue pour achever le vil travail, c'était la phase des sanctions, entre guillemets, unilatérales. C'est pas des sanctions, mais ce sont des mesures unilatérales imposées par les Américains au monde entier contre la Syrie pour empêcher que la Syrie ne reprenne, ne relève la tête économiquement. Ajoutées aux incendies des récoltes, ajoutées au vol du pétrole syrien et des récoltes syriennes, ajoutées aujourd'hui aussi au vol des richesses archéologiques de la Syrie. En fait, donc, tout ce qui transparaît derrière, avec l'aide de la Turquie, tout ce qui transparaît, c'est une volonté encore plus féroce de destruction de la Syrie, qui est le poste avancé, effectivement, de l'axe de la résistance, avec la résistance libanaise, qui aide et qui participe activement à cette résistance syrienne. Vient aussi, après la destruction du port de Beyrouth, en plus des attaques aussi politiques importantes contre l'axe de la résistance par les attaques contre le Hezbollah, qui est aussi un membre important de l'axe de la résistance pour ce qui est du Liban et pour ce qui est aussi de la guerre contre les terroristes en Syrie et de cette opposition à la violation par les États américano-sionistes et européens aussi. Donc face à cela, là, il y a une volonté d'affaiblir aussi le Hezbollah au Liban politiquement et militairement. Mais surtout, donc, tout le monde tient. Et donc là, il est important d'ajouter aussi aux agressions répétées et non cessantes contre le Yémen, qui est aussi par l'Arabie saoudite et les alliés de l'Arabie saoudite dirigés par ce pays aussi. Donc, on voit qu'il y a une offensive générale contre l'axe de la résistance, ce qui nécessite effectivement non seulement de resserrer les liens, mais aussi d'ajuster la stratégie de lutte contre toutes ces agressions et la stratégie de résistance, aussi bien sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan scientifique, sur le plan sociologique et sur le plan économique finalement et militaire. Donc, tout ceci contribue, effectivement, enfin, je pense que tout ceci a été étudié par le ministre des affaires étrangères syriens, qui était en fait en plus envoyé particulier du président Assad et qui a transmis aussi à la fois les condoléances au président Rouhani concernant l'assassinat du scientifique iranien, mais aussi la volonté aussi de continuer le combat de manière stratégique ensemble.
Et Maître Develet, s'agissant de la stratégie de la résistance à laquelle vient de faire allusion Madame Midani à Téhéran à l'occasion de cette visite du ministre syrien des Affaires étrangères, l'accent a été mis sur la nécessité d'éradiquer le terrorisme en Syrie et ailleurs dans la région. L'accent a été mis également sur la nécessité de libérer le Golan occupé. L'accent a été mis également sur la nécessité de mettre un terme à la présence de US, à la présence américaine dans la région du Moyen-Orient. Maître Develet, l'axe de la résistance dont l'Iran et la Syrie semblent ne pas vouloir s'arrêter là. En fait, l'axe de la résistance insiste sur la nécessité, en fait, de réaliser ces objectifs que je viens de mentionner tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Develet?
Écoutez, je suis d'avis qu'il y a une convergence, de toute façon, de vue entre les intérêts stratégiques iraniens et syriens, d'une part, mais aussi au-delà de ça, au cœur même du bassisme et au cœur même des piliers qui fondent la République islamique d'Iran, les deux partagent la libération de la Palestine. Donc à partir du moment où la Palestine doit être libérée, il va sans dire que le plateau du Golan doit être libéré aussi. Puisque ça fait partie de la Syrie et ça a été rappelé encore la semaine dernière par le biais d'une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies de manière quasi unanime, à l'exception de toujours les deux mêmes pays, avec peut-être quelques abstentions. Bon, mais enfin, donc ces objectifs stratégiques restent au cœur de cette relation privilégiée qui unit la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne. Et si on part du principe que la meilleure défense, c'est l'attaque, alors il faut pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Et ça veut dire que quelque part, plus que jamais, cette relation entre les deux pays se matérialise par une vigilance de tous les instants. Et le moment venu, lorsqu'il se sera décidé au plus haut niveau et au moment opportun, je pense qu'il y aura des surprises et que tout est mis en place actuellement pour que la décision, une fois qu'elle sera prise, puisse être mise en œuvre de telle sorte que le succès est quasi garanti. Parce qu'en ce moment, nous assistons quand même à une fébrilité de la part de l'entité sioniste. On dirait que pour la première fois depuis très très longtemps, le jeu a été complètement inversé. Il faut garder à l'esprit que depuis le mois de juin dernier et la visite du ministre de la Défense de la République islamique d'Iran à Damas, sur le terrain, au niveau balistique, les choses ont complètement changé. Le ciel syrien est non seulement verrouillé, mais l'entité sioniste est complètement encerclée, si je puis dire, par un anneau balistique. Et c'est ce qui explique cette fébrilité qu'on voit émerger de plus en plus maintenant de la part de Netanyahou essentiellement, et à telle enseigne que son partenaire de coalition lui-même, qui est un ancien général, donc pas un politicien en cravate, mais quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de questions, est en train de l'interpeller quelque part pour lui dire ne fais pas des choses que l'on ne pourrait pas assumer par la suite. Et cette préoccupation de Benny Gantz, puisque c'est son nom, se traduit par, il semblerait, un désir d'appeler à nouveau les citoyens sionistes à aller voter pour un nouveau gouvernement. Donc on sent bien que les choses ne se déroulent pas comme prévu, que les États-Unis étant empêtrés dans leurs affaires internes avec cette élection qui n'en finit pas, n'est pas du tout, si je puis dire, disposé à se laisser traîner dans un conflit qui pourrait prendre des proportions politiquement ingérables pour quel que soit le candidat qui sera sélectionné par l'État profond américain. Et on rentre un petit peu dans une situation, une période où, avec un idéologue comme Netanyahou à la tête de l'État sioniste, tout est possible et donc il faut être prêt à tout et en même temps ne pas perdre de vue les objectifs qui, encore une fois, au niveau de la doctrine, restent centraux, à savoir d'abord la libération du plateau du Jolan et ensuite la libération de la Palestine occupée.
Pour Madame Emidani reprendre et l'expression employée tout à l'heure par Maître de Develay, il y aura des surprises. Et la dernière en date, c'est peut-être cette déclaration de l'ambassadeur de Russie en poste à Tel Aviv, Madame Emidani. Au moment où, en fait, Faisal Miqdad était en train de rencontrer les plus hautes autorités iraniennes à Téhéran, l'ambassadeur de Russie en poste à Tel Aviv l'a dit clairement, le problème au Moyen-Orient, c'est Israël et non pas l'Iran, Madame Emidani.
Absolument, absolument. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une surprise pour les Israéliens, effectivement, et c'est quelque chose de très positif, en fait, que la Russie prenne effectivement cette position en connaissance de cause maintenant, puisqu'elle a aussi essuyé à plusieurs reprises des agressions aussi sur la base d'Ahmemim et sur la base des présentes en Syrie. Et puis, elle a pu toucher du doigt les agressions répétées des Israéliens contre la Syrie. La dernière en date était la semaine dernière contre l'aéroport de Damas et contre Jabal el-Mahner, qui est à côté de Damas et qui continue effectivement. Ajouter à sa coopération de plus en plus claire et qui est de plus en plus médiatisée, y compris par les médias occidentaux, avec les terroristes. Je rappelle que le Daily Telegraph et comme d'autres revues américaines et internationales ont fait état effectivement de cette collaboration d'Israël avec les terroristes pendant cette guerre contre la Syrie. Et donc, ce n'est pas qu'ils ne savaient pas, mais qu'ils ont jugé opportun peut-être maintenant d'en parler. Pour nous, nous le savons, et là, ça devient beaucoup plus de notoriété publique. Donc, il est clair que, et ça, c'est un point qui est très, très important. Aussi, alors, je voudrais ajouter, ce qui était très important, c'est aussi la condamnation par la Chine aussi de cet assassinat du grand scientifique Mohsen Fakhrizadeh, qui le met comme un crime contre l'humanité et qu'elle trouve l'assassinat des scientifiques est un crime terrible, est un vil crime. Et donc là aussi, la condamnation de ce type d'action, d'activité par la Chine. Donc, de plus en plus, le rôle d'Israël et ses agissements sont dénoncés par les grandes puissances et l'appel aussi à, je dirais, nous appelons à de plus en plus isoler Israël au niveau international. D'ailleurs, on voit le vote de l'ONU auquel qui a concerné le Golan et les territoires occupés par Israël aux Nations Unies, a bien montré à quel point ils sont isolés, mais il n'y a que les Israéliens, les Américains qui les soutiennent et aussi les pays de l'Union européenne qui sont sous protection ou sous ordre américain, je dirais, et qui ne peuvent pas différer, alors qu'il y a aussi les autres qui s'abstiennent. Donc, de plus en plus isolés mondialement, pas seulement Israël, mais aussi ceux qui la soutiennent, les États-Unis aussi.
Maître de Volée, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons une minute devant nous. Un mot sur cette récente déclaration de l'ambassadeur de Russie à Tel Aviv, s'il vous plaît.
Ben écoutez, ce qui est certain, c'est que, surtout concernant les Russes, quand un ambassadeur s'exprime sur un sujet ou avec une déclaration aussi tranchée, c'est qu'il reflète l'atmosphère, si je puis dire, à Moscou. Les Russes ont certainement toujours été dans une position d'être la partie qui parle à tout le monde, qui fait preuve de conciliation, qui agit dans le sens d'une sortie par le haut de la crise régionale et qui s'aperçoit qu'en dépit de toutes les bonnes volontés, il est confronté malheureusement à des parties qui, elles, n'entendent pas non seulement prendre acte de leur responsabilité dans la situation actuelle, mais en plus de ça, qui exigent et expriment des revendications qui est la lumière de la réalité telle qu'elle est.
Merci.
Sur le terrain, semble complètement irréaliste. Donc, c'est un constat, je crois, de la part de la Russie par le biais de cet ambassadeur.
Merci infiniment, Maître de Volée, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Madame Aïssa Hamidani, d'avoir été avec
Merci
moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à Presse TV Français. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Pratique des courants taquiristes. La banque appartenant à la famille régnante au Qatar, Doha Bank, vient d'être citée par des réfugiés syriens dans une affaire de financement du terrorisme taquiriste. Le journal britannique des Guardian, qui rapporte l'information, indique par ailleurs que des responsables qataris ont intimidé ces demandeurs d'asile qui accusent l'établissement financier du régime des Al-Sani de financer le groupe terroriste Al-Nusra. La police antiterroriste a été invitée à enquêter sur les allégations selon lesquelles des témoins et des plaignants dans une affaire de financement du terrorisme auraient été intimidés par des fonctionnaires travaillant pour l'État du Qatar, a précisé le journal des Guardian, qui révèle qu'une affaire impliquant des demandes d'indemnisation a été présentée par 8 réfugiés syriens contre la Doha Bank, dont le siège se trouve au Qatar. Le journal fait parler un avocat des plaignants syriens qui dénonce le harcèlement, l'intimidation, la pression, la surveillance secrète illégale à l'étranger, les menaces de visite d'hommes armés et masqués pendant la nuit, la tentative de corruption et les incitations au meurtre qui visent ses clients. Les requérants affirment qu'ils ont fui vers les Pays-Bas après que leur vie eut été menacée et leur maison détruite par le front Al-Nusra, une organisation takfiriste qui contrôlait certaines parties du nord de la Syrie, écrit des Guardians, qui précise que ces Syriens poursuivent la banque qatari parce qu'elle aurait été utilisée pour acheminer des fonds au profit du groupe terroriste, qui est une organisation interdite en Grande-Bretagne. Or, n'en est-il de l'autre organisation qui fait l'apologie du terrorisme, Rachad en l'occurrence, dont les deux chefs de file activent l'un l'Arbizitout à partir de Londres et l'autre Mourad Dina à partir de Genève. Il est fort à parier que la Doha Bank sert aussi à renflouer les caisses de ce mouvement inféodé aux frères musulmans financés par le Qatar et dirigés depuis la chute de Mohamed Morsi et de son organisation en Égypte par le président turc nostalgique de l'Empire ottoman Recep Tayyip Erdogan. L'indigence n'est pas le facteur déterminant dans la recrudescence du phénomène de l'extrémisme violent chez les jeunes. Ont convenu les participantes à un séminaire tenu lundi dernier au siège de l'Union nationale des femmes tunisiennes, UNFT, sur l'extrémisme violent et la protection des jeunes. Plusieurs études à travers le monde sur l'extrémisme violent ont conclu que la renommée et le faux héroïsme sont à l'origine de l'adoption par les jeunes de l'idéologie extrémiste. La rencontre intervient dans le cadre des événements organisés par l'UNFT dans le cadre de la campagne « 16 jours d'activité pour lutter contre la violence basée sur le genre social ». Le membre du bureau exécutif de l'UNFT, en charge des droits des femmes, a indiqué à cet effet que la privation et les erreurs commises par les gouvernements successifs dans le dossier de l'emploi, ainsi que l'illusion de liberté et l'aggravation de la précarité sont parmi les principales causes de la montée de l'extrémisme violent chez les jeunes. La faiblesse du contenu des programmes éducatifs des matières de l'éducation civique et de l'éducation islamique serait à même d'impacter négativement la pensée et le comportement de l'élève. Ainsi, ce facteur faciliterait son embrigadement par les mouvements takfiristes. La présidente de l'association a affirmé que l'apparition ces dernières années de ce qui est communément appelé le djihad électronique a facilité le processus de polarisation des jeunes via les plateformes des réseaux sociaux à coup de faramineuses sommes d'argent, a-t-elle dit, dans le but de diffuser leur contenu audiovisuel en plus des publications écrites. La plupart des jeunes recrues sont dans l'illusion que le djihadisme contribuera à leur renommée. Les participantes ont recommandé la nécessité de conjuguer les efforts des institutions d'éducation sociale. Il s'agit en particulier de la famille et des institutions éducatives. Au Maroc, le Bureau central d'investigation judiciaire a démantelé ce 4 décembre sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, une cellule terroriste affiliée à Daesh dont les membres s'activaient à Tétouane. Dans un communiqué, le Bureau central d'investigation judiciaire, BCIJ, révèle que l'intervention sécuritaire menée par les forces spéciales relevant du groupe d'intervention rapide a permis d'interpeller trois extrémistes au lien présumé avec cette cellule terroriste, âgés de 21 à 38 ans, dont un ayant des liens familiaux avec un combattant dans les rangs de Daesh sur la scène de la Syrie et de l'Irak. Les enquêtes et les investigations menées sur la base des aveux préliminaires des membres de cette cellule ont permis de localiser un domicile qu'ils utilisaient dans l'ancienne médina de Tétouane pour tenir leurs réunions et planifier leurs projets terroristes, ajoute la même source. Un examen complet des lieux et de leur contenu a été mené par les techniciens de déminage Après avoir pris toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité des habitants et des familles voisines. Les fouilles menées par les officiers du BCIJ et les experts des scènes de crime ont permis de saisir un étendard de Daesh en tissu, un manuscrit comportant le texte de leur allégeance au prétendu calife de l'organisation, ainsi que plusieurs armes blanches de diverses tailles et du matériel informatique et électronique, poursuit le communiqué. Les fouilles ont aussi permis de saisir des produits chimiques destinés à la fabrication d'engins explosifs traditionnels, dont des sacs de soufre et de phosphore, des barils de benzène, des bouteilles d'alcool à brûler, des sacs contenant d'importantes quantités de tournevis, de balles métalliques et de clous, outre des fils électroniques, des batteries électroniques, des bouteilles en verre pouvant être utilisées dans la fabrication de cocktails Molotov et des produits liquides suspects qui seront soumis à l'expertise technique au laboratoire de police scientifique et technique. Selon les premiers éléments de l'enquête, les membres de cette cellule terroriste ont atteint un stade avancé de préparation avant la mise en œuvre de leur projet terroriste avec l'enregistrement d'une vidéo où ils prêtent allégeance au prétendu émir de Daesh suivant des méthodes et conditions de cette organisation terroriste et précise les principaux objectifs de leur plan terroriste, ajoute la même source.